L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Kamal Ouadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous analyserons la désinformation orchestrée par le New York Times et des médias de masse occidentaux sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. En réponse à l'enquête publiée par Seymour Hersh, accusant l'administration US de l'avoir ordonné. Nous nous intéresserons aux mécanismes de détection et de contre-mesures que devraient développer les pays africains pour y faire face. Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invitée Rima Rouibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'éminent journaliste indépendant américain Seymour Hersh a publié un rapport d'enquête à succès accusant ouvertement le président Biden et les hauts responsables de la Maison-Blanche d'avoir ordonné le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Union européenne via la mer Baltique et l'Allemagne. Il est de notoriété publique que M. Hersh a un palmarès impeccable d'enquête révolutionnaire. En effet, lauréat du prix Pulitzer, c'est lui qui a dévoilé le massacre de Milley commis par les troupes américaines en 1968 au Vietnam, la torture à la prison d'Abu Ghraib en Irak sous l'occupation américaine et enfin l'opération Red Line pour acheminer des armes et des mercenaires de Libye vers la Syrie en vue de mener une guerre par procuration au profit des États-Unis à des fins de changement de régime à Damas. Dans son enquête sur le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2, Hersh s'est appuyé sur des sources internes des renseignements américains à Washington. Il a publié des affirmations selon lesquelles les États-Unis aurait mené l'opération secrète en utilisant une équipe de plongeurs de la marine américaine sous couvert des manœuvres de l'OTAN connues sous le nom Beltops 22, exécutées l'été dernier. Des explosifs auraient été posés, selon lui, dans le fond marin lors de ces exercices organisés en juin 2022, puis ont explosé plus tard le 26 septembre avec l'aide d'avions militaires norvégiens. Alors, outre le détail crédible de l'opération, l'aspect convaincant du rapport de Hersh est dans le fait qu'il confirmait ce que de nombreux observateurs indépendants, notamment occidentaux, avaient déjà conclu à partir de tout un faisceau d'indices circonstanciels solides sur qui avait le motif et les moyens de mener cette opération de sabotage. Or, curieusement, alors que le rapport de Hersh a provoqué des ondes de choc dans le monde entier, les gouvernements et les médias de masse occidentaux ont choisi d'ignorer ses conclusions. Dans une sorte d'univers parallèle étrange, ils ont prétendu que les révélations retentissantes de Hersh relevaient du fantasme journalistique. À ce titre, le New York Times, donc repris par d'autres médias occidentaux, a publié la semaine dernière une contre-enquête maladroite et manifestement sans argument consistant, qui n'a finalement servi qu'à attirer encore plus l'attention sur la culpabilité des États-Unis dans l'explosion des gazoducs Nord Stream. En effet, non seulement l'administration du président Biden est encore plus accablée par la responsabilité de cet acte, mais l'absurde tentative de dissimulation tentée la semaine dernière par ces journaux expose les médias occidentaux comme n'étant rien d'autre en réalité qu'un ministère de la propagande déguisé en journalisme. On serait tenté de penser que la réputation mondiale de Seymour Hersh aurait dû normalement et au minimum inciter aussi bien les gouvernements que les journaux occidentaux à mener des enquêtes approfondies, étant donné que son rapport pointe directement la responsabilité des États-Unis au plus haut niveau dans cet acte qualifié par les autorités russes de terrorisme international. Rien de tout cela. Au contraire, ils ont tenté l'inverse, bien que ce sont les pays européens, l'Allemagne en tête, et leur peuple qui payent le prix fort de ce sabotage. À ce titre, il faut bien rappeler et souligner que ce ne sont pas les sanctions occidentales qui ont interrompu la livraison de gaz à l'Europe, de gaz russe, je veux dire, mais bien le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Et pour cause, la Russie, à ce jour, continue d'exporter son gaz naturel liquéfié, GNL, vers l'Europe. Pour cette nouvelle édition de notre émission, et pour analyser cette opération de désinformation, comprendre ses objectifs et déceler ses méthodes et ses techniques, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Rima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. Rima Rouibi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci pour l'invitation.
Bien, alors la première question. Après avoir maintenu le silence pendant un mois quant à l'enquête publiée par Seymour Hersh, le New York Times a publié la semaine dernière un rapport développant une explication alternative aux explosions de Nord Stream 1 et 2. Comme si c'était un mot d'ordre, il s'en est suivi une éruption d'autres reportages de médias occidentaux régurgitant ou racontant la même histoire. Alors, comment expliquez-vous ce comportement des médias occidentaux agissant comme un système unique de désinformation, je dirais même de lavage de cerveau, piloté par un seul centre de commandement apparemment?
Donc, encore une fois, merci pour l'invitation et vous posez une question assez importante par rapport au contexte géopolitique. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons pas uniquement un contexte géopolitique particulier, mais aussi d'ordre politique, à vrai dire, mais aussi par rapport aux pratiques médiatiques. Alors, vous utilisez le mot comportement. Moi, je dirais plus, comment peut-on qualifier, si vous permettez, comment peut-on qualifier ces pratiques journalistiques dans un contexte géopolitique aussi sensible? Des pratiques qui relèvent de la désinformation, vous avez dit lavage de cerveau, je dirais aussi de la manipulation carrément. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un journaliste qui se qualifie de freelancer dans son site Substack, qu'il a justement créé par rapport pour, il le dit à la fin de la présentation, par rapport aux pressions. Donc, vous avez parlé du prix Pulitzer qu'il a eu suite à son travail d'investigation concernant le massacre de Mili de en Vietnam, un crime qui a été commis par les militaires américains et les agents de la CIA. Il a fait un excellent travail en 2004 sur le scandale d'Abu Ghraib. Il a eu aussi un prix, son cinquième prix de George Polk. Donc aujourd'hui, on parle pas d'un simple journaliste, mais d'un journaliste qui connaît les pratiques nobles du journalisme d'investigation. Donc lorsqu'on parle aujourd'hui de ces pratiques, il faut savoir un point, ma foi, qui est assez important, c'est-à-dire la politique américaine aujourd'hui. Et hier, ça travaillait toujours d'une manière symétrique avec les médias. C'est-à-dire, il n'y a pas de position politique sans mobilisation des médias américains. Alors, quand vous visitez, c'est le X, excusez-moi, sur le state.gov, quand il définit la désinformation, il met en exergue la déclaration de Joe Biden, c'est-à-dire il dit que aujourd'hui nous les dirigeants nous devons avoir cette responsabilité de défendre la vérité face aux mensonges. Mais Joe Biden, à vrai dire, il n'a pas précisé quelle vérité, c'est-à-dire aujourd'hui les médias américains.
Ni quel mensonge d'ailleurs.
C'est-à-dire, mais aujourd'hui je pense que les Américains, ils sont en train ils sont face à une dualité, c'est la vérité comme mensonge. Je pense qu'on est là aujourd'hui. Et il faut revenir, ma foi, me semble-t-il aussi, à l'article de Hersh, qui est extrêmement important, intitulé, alors pour ne pas me tromper, How America took out the Nord Stream pipeline, c'est-à-dire, il précise avec des arguments la vision de Joe Biden et comment il voyait le Nord Stream comme une arme qui menace l'hégémonie américaine au sein de l'Europe. Donc, il faut pas oublier que les Américains, ils ont cette, je dirais, cette ambition de vouloir contrôler le monde. Et ils voyaient dans le gaz naturel. Alors, excusez-moi, je vais juste rebondir sur ce point. Ils voyaient dans le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2. Dont sa structuration a été achevée. Vous corrigez-moi si je me trompe. En septembre 2021. En collaboration avec les Allemands, comme une véritable menace. Alors pour les Américains et pour le NATO aussi, donc ou pour l'OTAN aussi. Mm-hmm. Donc Seymour Hersh précise que Biden, et je pense que la vidéo existe toujours. Alors ce qui est bien avec Internet, c'est que Internet n'oublie rien. La déclaration de Biden quand il dit à la journaliste. Si la Russie procède à l'opération spéciale en Ukraine, lui il avait utilisé le mot envahit l'Ukraine, il n'y aura pas de Nord Stream 1.
De Nord Stream 2 et je rappelle que il avait fait cette déclaration en pleine conférence de presse avec Olaf Scholz. Avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Dont l'Allemagne justement est un important actionnaire dans la réalisation de ce gazoduc. Allez-y, je vous laisse continuer.
Oui. Alors, le problème, c'est que la journaliste, elle insiste, elle dit comment vous allez le faire. Il a dit, je ne vous dirai pas comment, mais nous allons le faire. Et Seymour Hersh explique que il y avait un groupe dans son article qui est accessible. Tout le monde peut le prendre comme référence. Il dit qu'il y avait des agents de la CIA qui ils avaient rédigé un rapport qui stipule qu'ils ont les moyens pour justement se faire exploser le Nord Stream 2. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est à qui profite le crime? C'est-à-dire vous venez de préciser une information qui n'est pas divulguée, qui n'est pas diffusée par les médias, que la Russie à honorer ses engagements en dépit des sanctions qui ont lui été imposées. Et à savoir que l'Union européenne, le Nord Stream, le gaz russe représente 35% de l'alimentation européenne. Donc, et un deuxième point, il faut savoir aussi les prix du gaz américain. Macron avait critiqué fortement les prix du gaz américain en disant qu'il faut revoir le sens de l'amitié, quoique la politique ne connaît pas d'amitié, par rapport au prix imposé par les Américains. C'est-à-dire, voilà.
Donc là, l'alibi, mais cette coordination entre tous les médias, juste après le rapport de New York Times, il est parti comme le feu dans la paille. Et repris partout sans discernement ni questionnement. C'est quand même étonnant. On a l'impression que ça fonctionne comme une horde. Il y a le chef de la horde qui donne le mot d'ordre.
Excusez-moi parce que à vrai dire, vous venez de soulever un point important quand vous venez de poser la première partie de la question. Alors, vous avez dit un seul commandement. Alors, vous me faites rappeler un ouvrage très important de Edward Bernays, c'est la propagande et comment manipuler l'opinion publique en démocratie. Il faut savoir qu'il y a un État invisible aux États-Unis qui dirige et qui a les moyens de diriger les médias et qui a les moyens de diriger les médias selon les besoins de la politique américaine. Donc ça, c'est un étonnement, oui, mais c'est un étonnement, je veux dire, qui dure depuis un moment déjà. Mm-hmm. C'est pas nouveau des pratiques américaines. Je dirais que, je sais pas si vous vous rappelez de la citation de Ronald Rumsfeld qui disait, Rumsfeld, Donald Rumsfeld, qui disait alors nous menons une guerre, mais la vraie guerre c'est la guerre, la vraie guerre c'est celle des tribunaux de l'opinion publique, et nous allons la gagner. Alors Donald Rumsfeld ne fait plus partie de ce monde, mais son esprit, je veux dire, existe toujours dans la politique américaine. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas à un degré, je dirais, de simple désinformation ou de lavage de cerveau. Et si nous parlons de ce que Richard Hewer appelle la tromperie stratégique, c'est-à-dire on est dans un niveau de vouloir tromper l'autre et instaurer comme une sorte de perception biaisée à l'égard de la Russie. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc nous sommes dans un climat de guerre, mais aussi dans une guerre médiatique qui décidément, je veux dire, a un prix assez lourd, puisque le New York Times ainsi que les médias, vous imaginez un petit peu que le Business Insider avait qualifié le journaliste, le journaliste Seymour Hersh comme un journaliste discrédité. Je veux dire, c'est
ouais, il y a même certains dans les plateaux, moi j'en ai vu dans certains plateaux des médias français qui ont même avancé le fait qu'il était sénile, comme il avait atteint les 86 ans, et que ses sources n'étaient pas très sérieuses. Mais après, quand on voit sur quoi ils se sont appuyés justement pour tenter de le discréditer, on se dit c'est un peu l'hôpital qui se fiche de la charité.
De la charité, oui. Ouais.
Bien. Donc, alors, une deuxième question, s'il vous plaît. L'idée maîtresse de l'article du New York Times est que le sabotage a été effectué par des groupes pro-ukrainiens qui pourraient avoir impliqué des ressortissants aussi bien ukrainiens que russes. Alors, les sources citées pour affirmer ces allégations étaient des responsables américains anonymes se référant à de prétendues nouvelles informations qui contrediraient celles avancées par Seymour Hersh. Donc, il a également été affirmé qu'un yacht privé appartenant à des Ukrainiens avait été utilisé et que la CIA avait informé les services de renseignement allemands que l'attaque imminente des mois avant qu'elle ne se produise. Aussi, à en croire donc le New York Times, une opération militaire aussi sophistiquée et hautement technique, exécutée dans les fonds marins très turbulents de la mer Baltique, il faut se rappeler, c'est pas une mer facile, aurait été donc menée par un groupe de simples paramilitaires inconnus. Alors, la question, comment analysez-vous la légèreté des arguments du New York Times et le fait que les autres médias de masse les ont suivis aveuglément? Et pourquoi dédouaner Washington et accuser, même indirectement, Kiev, parrainé par l'OTAN et donc par les États-Unis eux-mêmes, au risque de provoquer une colère des Européens à son égard à un moment où elle n'a certainement pas besoin de ce genre de publicité? Et surtout, que l'enquête donc du New York Times stipule que ces militants intrépides, non contrôlés, ont réussi à le faire à l'insu du président Zelensky et de son cabinet, ce qui rend donc encore le récit un peu et doublement ridicule. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il me semble que le rapport de New York Times est venu comme une sorte de réaction par rapport à l'écho de Hersh, c'est-à-dire que dans les stratégies de désinformation, alors aujourd'hui avec le site de Hersh Substack, c'est-à-dire il y a comme une sorte d'autonomie de publication d'informations, c'est-à-dire que le journaliste ne subit pas des pressions de publier ou de ne pas publier. Et suite à l'écho de Hersh, donc il fallait trouver un moyen, puisque l'ignorance ne suffisait pas. Il faut savoir que au départ, les informations de Hersh ont été ignorées par les Américains. Ce n'est que par la suite, c'est-à-dire après l'écho, après le bruit que l'article de Hersh a suscité, donc il fallait quelque part contrecarrer l'information par une autre information. Cette information, à vrai dire, met les Ukrainiens comme dans le statut de bouc émissaire pour les Américains, puisque l'article de New York Times parle des déclarations des officiels américains, c'est-à-dire non, qui n'ont pas été vérifiées, et qui ne savent pas si alors l'opération était préméditée, je veux dire par un groupe, je veux dire qui par un groupe ukrainien, mais sous une autre sous un autre commandement ukrainien, c'est-à-dire aujourd'hui on met en exergue une certaine division politique ukrainienne. Donc je ne sais pas comment cet article est perçu par les Ukrainiens, mais en tout cas il les met vraiment dans une position, oui,
la position c'est que le cabinet du président Zelensky a démenti
ces propos, les propos de New York Times. Oui, c'est-à-dire à vrai dire déjà depuis l'opération spéciale, les Américains ne font qu'enfoncer, à vrai dire, les Ukrainiens davantage, dans la mesure où ils n'ont rien apporté en termes de solution, mais de deux, ils les mettent comme une sorte de bouc émissaire pour pour défendre des intérêts purement américains. Donc c'est ça aujourd'hui ce qu'il faut, je pense, aujourd'hui il faut établir une stratégie médiatique pour éclairer l'opinion publique. Donc quand vous parlez de New York Times dont l'information a été reliée par les autres médias, ben il faut savoir que le New York Times a été connu, donc il a créé une certaine notoriété médiatique qui lui permet de se positionner comme étant un journal de référence. Donc aujourd'hui, on enseigne le New York Times, on enseigne le slogan de New York Times, All the news that fits to print. Donc tout ça donne, à vrai dire, cette possibilité de propager toutes les informations que New York Times diffuse. C'est quand même un petit peu... donc le New York Times a cette image de journal
mais
de
source
fiable.
Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que ce qui nous étonne, c'est le fait que ceux qui les ont relayés, ils ne se sont pas posé la question sur comment ils ont confectionné leur enquête, ni comment sur quoi ils se sont appuyés, comment ils ont pu vérifier, et parce que c'est quand même grave. Il s'agit d'un acte de sabotage, d'un acte de guerre contre la Russie, qui aurait pu dégénérer vers une catastrophe.
Exactement. Donc, je pense que c'est pas grave. On va revenir à la règle classique disant qui détient l'information détient le pouvoir. Et je pense que la vraie information, ce sont les Américains qui la détiennent dans la mesure où ils savent qui est derrière ce crime. Et ils ont utilisé le New York Times comme ils l'ont utilisé pendant l'invasion américaine contre l'Irak pour manipuler l'opinion publique. Et justifier les actions américaines. Donc, c'est-à-dire que se poser des questions, ne pas se poser des questions, c'est une sorte de consentement médiatique avec la stratégie médiatique américaine. Mmh. Donc, n'attendez pas que les médias européens qui sont pro-américains vont se poser des questions sur le rapport de New York Times. Aujourd'hui, le travail d'investigation et le travail de vérification est un travail lourd et est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Donc, les Européens vérifient les informations. Je pense que si c'était un média russe, ils auraient pris la peine de vérifier. Je vous donne un exemple qui, je pense, qui nous a tous choqués. C'était quand l'ambassade ukrainienne à Alger avait publié un communiqué pour justement mobiliser les jeunes et aller combattre. Je veux dire, moi, je garde toujours ce formulaire et ma foi, on était choqués de voir comment cette opération n'a pas été, je veux dire, même pas sur le plan médiatique, n'a pas été cité ou indigné, je veux dire, c'est quasiment choquant de alors sachant que ça a été la même procédure, la même démarche a été entamée en Israël, au Mali, donc, et ça n'a pas été cité, ça n'a pas été condamné, et ça n'a pas été, je veux dire, médiatiquement, ne serait-ce revenant aux bases journalistiques, c'est-à-dire citer et décrypter. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous permettez, les médias américains savent très très bien quel genre issues, c'est-à-dire quel genre de sujet imposé, c'est-à-dire qu'est-ce que le public, sur quoi le public doit penser, mais aussi le diriger vers les points qui sont dans l'intérêt de la politique américaine. C'est ce qu'on appelle framing and science. Donc, c'est-à-dire, ils sont dotés de mécanismes qui peuvent justement diriger et guider l'opinion publique.
On reviendra dans la seconde partie. Justement, je vais vous laisser le temps parce qu'il est très important qu'on explique aux gens et à nos auditeurs comment détecter qu'est-ce qui est traité comme une information pour Deutsche. On veut de chercher la vérité et ce qui relève de la propagande et de la manipulation médiatique. Bien. Alors, la troisième question, c'est qu'avant que l'enquête ou disons l'anti-investigation du New York Times n'apparaisse, il y a eu deux événements de taille qui ont précédé donc la publication du New York Times. Alors, il y a d'abord le voyage 3 mars du chancelier allemand Olaf Scholz à Washington, où il s'est entretenu avec Joe Biden. Et bien sûr, on pourrait raisonnablement supposer que Scholz plaidait auprès de Biden pour une certaine couverture politique en raison de la colère croissante du public allemand face aux conséquences économiques de la politique américaine en Ukraine et contre la Russie. Puis, il y a aussi l'apparition soudaine d'un commando fasciste ukrainien qui ont perpétré le 2 mars l'attaque terroriste dans la région russe de Bryansk. Alors, il y a eu deux adultes qui ont été tués et un jeune qui a été blessé. Alors, ce raid, cependant, et c'est ça où la chose est très importante, a attiré l'attention du public sur l'existence de militants pro-ukrainiens qui semblent agir comme des loups solitaires dans des opérations internationales. Et quand on reprend l'étude ou l'enquête publiée par le New York Times, c'est justement le genre de profil que le New York Times et d'autres médias occidentaux ont attribué aux saboteurs de Nord Stream 1 et 2. Alors, cette campagne, à votre avis, ne vise-t-il pas à détourner l'attention du public des questions politiques et économiques qui les touchent directement en menant une campagne médiatique concertée sur qui aurait fait exploser les deux gazoducs?
Oui, c'est une hypothèse. Hein. C'est une stratégie, de mon point de vue, hein, je tiens à le préciser, qui sert au moment où on met en exergue une enquête pour revenir à Seymour Hersh. C'est-à-dire pour faire oublier l'importance de son rapport, ben forcément il faut mettre en exergue d'autres questions et c'est-à-dire comme il y a aussi cette instantanéité numérique où on est bombardé par les informations, ben l'oubli est vite fait, c'est-à-dire on détourne l'intention du public, des journalistes, de ceux qui s'intéressent réellement à l'explosion de Nord Stream, et ainsi que l'impact aussi. C'est ça. Donc il faut impérativement imposer, peut-être même créer d'autres scènes, créer une sorte de scénarisation.
C'est un peu comme ce qui s'est passé pour tout le bombardement médiatique concernant le Covid 19, et dès que l'opération spéciale russe a commencé en Ukraine, c'est comme si le Covid, le virus, a pris des vacances et il attend la fin de l'opération pour revenir et reprendre du service.
vous savez, il y a justement un professeur américain Oliver Boyd, qui a un excellent livre qui s'appelle Media Imperialism, et qui cite justement comment les médias américains, comment aussi la politique américaine, elle veut dire, je veux dire, se sert des médias pour imposer justement les questions qui ne menacent pas la politique américaine. Donc aujourd'hui, alors si vous permettez, donc on vise aussi la Russie non pas uniquement d'ordre économique, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors aujourd'hui en Europe, en particulier même en France, dès qu'il y a quelque chose, on remet ça à la guerre en Ukraine. Dès qu'il y a quelque chose, alors il y a début mars, il y avait l'augmentation des prix en France, ouais. Et on remet ça à la guerre en Ukraine. Donc c'est comme une voilà. Donc
le méchant loup Poutine qui est l'origine à l'origine de tous les maux qui frappent l'économie et la vie sociale occidentale, notamment européenne. Bien. Alors, oui. Une dernière question, s'il vous plaît, pour concernant cette première partie de notre entretien. Alors, outre la campagne de désinformation des médias occidentaux, il y a un faisceau d'indices et de faits flagrants qui vont de l'avis de beaucoup d'experts, y compris occidentaux. Je peux citer par exemple Jacques Beau, qui est un ancien de l'OTAN et un spécialiste du renseignement stratégique, dans le sens que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont commis cet acte de terrorisme international contre des entreprises et des gouvernements européens, parce que l'Allemagne, la France, beaucoup d'entreprises sont actionnaires dans ce projet. Et un acte de guerre contre la Russie. Alors, cet acte a vraisemblablement été ordonné, comme l'affirme Seymour Hersh, par le président américain et ses collaborateurs, mais les motifs géopolitiques aussi sont accablants, tout comme les aveux de Biden et de ses collaborateurs avant et après le sabotage. Alors, la question, ces tentatives maladroites de dissimulation par les médias occidentaux, à votre avis, ne servent-elles pas, in fine, à incriminer davantage les États-Unis et leurs partenaires de l'OTAN par incompétence? Et les médias occidentaux ne se sont-ils pas rendus complices de la propagande entourant cet acte? Et aussi, comment peuvent-ils continuer dans ce cas-là à prétendre qu'ils sont les sommets du journalisme et les défenseurs de l'intérêt public et de la démocratie, entre guillemets?
Alors, vous me posez une question très importante et très vaste, dans la mesure où, alors là, on parle des pratiques journalistiques en termes de liberté d'expression, parce qu'on voit qu'avec toute cette campagne médiatique, on sacrifie en premier la liberté d'expression, puisque on voit Seymour Hersh comment il a été traité. Donc c'est et on se pose la question à quel point c'est facile d'incriminer l'autre. Et je rappelle aussi que New York Times avait appelé à condamner même Donald Trump. Donc me semble que alors les États-Unis leur manœuvre était d'enchaîner aussi les Européens. Je pense qu'à l'ordre du jour, je parle maintenant au temps présent, que les Européens ils se sont vite pris de position contre la Russie. Mmh. Donc quelque part ils n'ont pas le choix que d'être avec les Américains. Donc je suis pas spécialiste en relations internationales, mais je pense que l'alignement médiatique européen qui est quasiment pro-américain le prouve quelque part. Mmh. Et c'est difficile de dès qu'on affiche certaines positions, c'est très difficile de faire marche arrière. Et à la fois c'est toujours l'intérêt américain qui prime, dans la mesure où médiatiquement on impose les positions américaines de point de vue politique, et d'autre part les Américains ils essayent d'imposer comme je l'ai cité le gaz américain au prix voulu par les Américains. Je pense que aujourd'hui les médias, comme vous vous dites, les pratiques journalistiques par rapport au service public, par rapport, c'est ça, j'espère que je m'éloigne pas de l'horizon de votre question. Il faut savoir, moi, permettez-moi juste d'insister sur un point. Il faut savoir que les stratégies médiatiques ne datent pas d'aujourd'hui. Les stratégies médiatiques ont toujours accompagné la politique américaine. Et je pense que même pendant l'invasion américaine, si injuste a été fondée sur des fake news, nous avons vu comment on a ficelé des arguments qui n'ont aucun sens contre l'Irak. Et vous voyez l'Irak aujourd'hui qui est complètement économiquement, politiquement, socialement, complètement anéanti par la politique américaine et comment les médias européens ont accompagné cette stratégie médiatique. Donc, me semble-t-il que lorsqu'il s'agit des enjeux géopolitiques, il n'y a plus de place à l'expression, au droit d'expression, à la liberté d'expression et malheureusement aux pratiques nobles du journalisme fondé sur des pratiques journalistiques de véracité de l'information, c'est-à-dire tout est sacrifié pour les intérêts politiques américains.
D'accord.
Américains, pardon. Ouais.
Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Rima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger.
Rima Rouibi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. La première question, comment fonctionne la désinformation et quelles sont ces techniques subtiles et comment la détecter? On peut faire la différence entre une information vraie et quelque chose qui relève de la propagande et de la désinformation?
Alors, je vous remercie encore une fois pour avoir proposé cette thématique hein, qui est très très importante et qui est à l'ordre du jour dans la mesure où ça relève d'un contexte où nous vivons, nous sommes de plus en plus manipulés par la désinformation, et c'est aussi par rapport à deux éléments. Le premier, c'est le contexte, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un contexte connu par des crises, par des guerres. Forcément, il y a beaucoup d'informations, de fausses informations, et forcément, l'information est biaisée dans un sens comme un autre. Hein. Quand vous me posez la question, comment on peut détecter ? Alors, c'est une question importante, mais la réponse n'est pas aussi simple que ça, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez cité le New York Times, qui était pour beaucoup une source fiable, une notoriété médiatique, dont lui-même devient la source de l'information qui est reportée. Et aujourd'hui, l'information crédible est détectée par la source elle-même. Mais comme je viens de le citer, c'est-à-dire le contexte est si sensible qu'on ne sait plus qui doit être publié quoi et quand et est-ce que c'est fiable ou pas. Et c'est à partir de là, nous vivons un véritable chevauchement entre l'information et la désinformation, c'est-à-dire les fake, autrement dit même les fake news. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire avec ce qui se passe actuellement, et je reviens à Hirsch, c'est-à-dire après tout ce qu'il a fait comme travail d'investigation, comme des rapports, de sources confirmées, on arrive à le classer comme étant un journaliste discrédité. Le porte-parole de Pentagone après son article du scandale d'Abu Ghraib qualifié d'une composition complètement erronée. Donc aujourd'hui, il faut faire confiance à la source déjà dans la mesure si c'est une source qui n'est pas soumise à des pressions politiques. Je pense que c'est le piège du New York Times, dans la mesure où il y a comme une sorte d'emprise politique sur le New York Times dans le contexte actuel. On se pose des questions si c'était pas un article commandité, à vrai dire. Mm-hmm. Il n'y a pas de baguette magique, je veux dire, dans la mesure où dire à un simple citoyen, voilà, ce sont les étapes pour savoir si c'est une information vraie ou c'est une véritable désinformation. Il faut faire appel à un esprit critique et savoir questionner quelles sont. Alors, vous faites rappeler aussi l'ouvrage de Herbert Schiller, c'est-à-dire pourquoi ils ont dit ça, ils n'ont pas dit autre chose. C'est véritablement le seul esprit critique et fonctionnement critique qui peut aujourd'hui, avec l'émergence d'un flux d'informations quasi permanent, et qui nous permettent de distinguer les deux.
D'accord. Et de toute façon, c'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, si je peux le dire, c'est une information se caractérise en général par deux éléments, le contenu et la source. Vous avez raison donc de souligner la première qui est la source, mais aussi le contenu. C'est-à-dire que il y a des informations lorsque au moins l'un de ces deux éléments manque d'intégrité. Alors justement,
c'est pour ça que j'ai parlé d'esprit critique.
Oui. Et justement, c'est-à-dire comme il faut analyser ce qui est dit aussi d'un point de vue du contenu, nonobstant la source qu'il a diffusée. Alors pour la deuxième,
excusez-moi, mais il y a un autre problème aussi, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte, c'est-à-dire même si on donne les arguments, même si on donne, c'est ce que Hirsch avait fait, il a donné les arguments, il a justifié, je veux dire, mais malgré ça, on est dans un autre niveau qui est plus dangereux, ma foi, c'est ce qu'on appelle post-factuel ou post-vérité, c'est-à-dire la machine médiatique a tellement manipulé le public ou la foule carrément qu'elle fait comme une sorte de barrage contre toute autre vérité. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre de perception. Tout ce qui est russe est banni. Donc, il faut se poser les questions pourquoi ils ont boycotté Russia Today, c'est-à-dire ils ont la première des choses qui a été qualifiée comme serpent de l'information. Et pourquoi, étant donné que la démocratie, elle prétend d'entendre deux vérités, et c'est aux citoyens, c'est au public de déterminer, d'analyser et d'adopter la position la plus correcte pour lui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire on a complètement exclu la Russie, c'est-à-dire par son discours médiatique, pour justement imposer un seul discours.
Mmh. Mais d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire et de la perception que vous avez citée à juste titre, comment ça fonctionne pour empêcher justement les gens de réfléchir par eux-mêmes et suivre comme une espèce de, comment dirais-je, l'ancien l'écrivain, je crois que c'était Rabelais, François Rabelais, comme un troupeau de moutons de Panurge conduit à leur propre perte sans réagir. C'est quand même très important, je crois que... Oui, je vous écoute.
Oui, c'est important, mais il va falloir aussi que vous organisez, je pense, une autre séance, un autre entretien pour qu'on puisse s'étaler davantage.
Allez-y, je vous laisse le temps de...
Oui, c'est très important, mais vous me rappelez aussi la citation de Lénine qui dit « il faut répéter le mensonge plusieurs fois ». Plus on répète le mensonge, plus c'est grand, plus les gens vont croire. Et donc, il y a tous les médias, que ce soit les réseaux sociaux numériques, que ce soit les médias mainstream, le fait que vous imposez tout le temps, Lippmann avait également évoqué dans son ouvrage Public Opinion, comment la presse américaine avait prédit que la révolution bolchevique ne va pas réussir, et l'opinion publique était façonnée vraiment par rapport aux articles médiatiques. Donc c'est plus on impose, plus on répète, plus c'est-à-dire c'est un véritable bombardement médiatique, plus on est en train de façonner une perception. On est arrivé dernièrement, j'ai vu un documentaire comment les Russes qui vivent en France sont vus. Il y avait même un Russe qui vit en France depuis 30 ans, qu'une pharmacienne lui avait refusé de lui vendre des médicaments. Donc à tel point c'est dangereux d'imposer une perception de l'autre et qui facilite la circulation message que vous voulez véhiculer.
Par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a pas mal d'études aussi, il y a pas mal de sociologues et de spécialistes de l'éducation justement qui pointent le fait que en Occident on a fait sciemment de détruire l'école pour tous et oui. Assurer la formation et la connaissance uniquement pour une élite. Est-ce que ça c'est pas coordonner une espèce de coordination, je ne sais pas, hein, sans être comment dirais-je complotiste, mais il y a quand même des questions à se poser, c'est-à-dire comment on peut. Parce que c'est très étonnant, parce que les Européens, par exemple, payent avec leur chair cette propagande. Et c'est le sabotage des Nord Stream 1 et 2, c'est pas uniquement la facture, mais c'est aussi la désindustrialisation de l'Europe.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est quoi la question, à vrai dire?
Oui, c'est-à-dire que...
Vous avez rebondi, oui.
Oui, c'est parce que donc ce matraquage médiatique, il trouve un espace où il peut se diffuser facilement. C'est parce qu'il n'y a pas eu l'école et la formation, justement, qui permet de déconstruire une fausse information.
Je partage votre point de vue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'éducation aux médias, c'est-à-dire comment réfléchir au contenu médiatique et comment faire appel à son esprit critique, comment vérifier l'information. Ce n'est pas, vous savez, mais vous êtes en train d'évoquer un point dans la mesure de l'apprentissage, c'est-à-dire d'ordre pédagogique, comment faire, c'est-à-dire que les programmes ne sont pas adéquats avec les nécessités, ils sont pas assez suffisants pour armer le citoyen d'aujourd'hui pour justement contrecarrer la désinformation ou ce genre de stratégie médiatique qui menace la vie quotidienne du citoyen, à vrai dire. Donc ça c'est un point, mais aussi c'est un peu difficile quand on prépare le terrain par les perceptions. Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus difficile que de changer les perceptions. C'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire la machine médiatique occidentale, américaine et européenne a tellement diabolisé la Russie que d'autre part elle légitime toute action contre la Russie. C'est ça le danger aujourd'hui. C'est-à-dire on a adopté un discours, on a préparé le terrain pour que tout discours politico-médiatique soit avalé d'une manière machinale.
D'accord. Donc passons à la question suivante. Alors, pensez-vous donc, dans ce cas, d'après tout ce que vous avez développé, que les pays et les populations africaines sont bien armés pour faire face à des opérations de désinformation savamment orchestrées par les grandes puissances occidentales et leurs bras armés, l'OTAN? Et quelle place occupent les réseaux sociaux et les technologies de l'information dans ce genre de campagne?
Alors je vais commencer par la dernière partie de votre question, quelle place occupent les réseaux sociaux numériques? En Afrique, alors je dirais, elle occupe toute la place. Enfin, c'est, je pense pas que j'exagère un petit peu, mais dans la mesure où je vois les jeunes en Algérie, j'ai mes amis au Sénégal, au Mali, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont quasiment, les réseaux sociaux numériques sont, je veux dire, omniprésents dans la vie des jeunes. Ils sont quasiment la première source de d'information. Alors il y a 2 ans, on avait réalisé un sondage à l'école supérieure de journalisme et 98% des étudiants qui ont été interrogés citent que les réseaux sociaux numériques sont leur source d'information. Et ce sont alors quel genre de source, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, ce sont des sources qui façonnent une perception de la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc, pour revenir à la première partie de votre question, est-ce que l'Afrique est préservée, c'est ça ?
Est-ce que elle est prête, justement ? Elle a les moyens et les outils, les contre-mesures nécessaires ? Parce que dans le contexte géopolitique actuel, elle est dans la ligne de mire pratiquement dans toutes les grandes puissances.
C'est une cible, oui.
Oui, c'est une cible, ouais, importante à cause des matières premières et tout. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même ce travail qui se fait pour aider les gens à comprendre la désinformation?
Alors, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Il y a beaucoup de collègues qui sont en train de d'instaurer des programmes éducatifs pour justement savoir comment endiguer l'infox, donc c'est-à-dire les fake news et
La désinformation
est incluse. Comment faire appel à l'esprit critique? Alors là, j'ouvre une parenthèse, mais toute petite. Certains travaillent dans le cadre de la francophonie. Donc, quand on dit éducation aux médias, mais qui l'impose, à vrai dire. Mais il y a un travail qui se fait et il faut faire un travail justement concernant l'éducation aux médias et l'esprit critique. Je reviens à l'ouvrage de Masterman qui dit que le fait de faire appel à l'esprit critique, c'est garantir les bonnes décisions qui seront prises demain. Alors l'Afrique, vous venez de le dire, c'est une cible de toutes les désinformations possibles et imaginables. Elle représente un terrain fertile justement pour l'émergence de ce genre d'informations, dans la mesure où il n'y a pas une incarnation dans certains cas du droit à l'information, c'est-à-dire on offre des cerveaux disponibles aux réseaux sociaux numériques parce que les médias lourds n'arrive pas à garantir l'information. Je cite ce point et j'ai cité aussi pourquoi on se pose la question, pourquoi les ambassades ukrainiennes ont choisi l'Afrique pour mobiliser des jeunes et les envoyer au champ de combat pour les intérêts ukrainiens. Donc là, parce que tout simplement, ils savent que les réseaux sociaux sont le terrain adéquat pour faire passer le message qu'il faut, c'est-à-dire le message qu'il faut dans la mesure, selon l'objectif et selon l'intérêt. Les réseaux sociaux numériques, c'est the voice to the voiceless, c'est la voix de celui qui n'en a pas. Et quand il y a le vide, c'est-à-dire quand il y a un vide, quand il y a quand on fuit les médias lourds, forcément on cherche ce besoin d'être informé à travers les réseaux sociaux numériques qui sont envoyés par des sources fiables, non fiables, crédibles, non crédibles, et voilà. Donc pour donner une réponse affirmative et dire que l'Afrique peut se préserver, il va falloir garantir une volonté politique d'abord, d'armer les populations africaines des moyens de promouvoir davantage l'esprit critique, du coup fournir un terrain où cet esprit critique peut s'exercer, et de trois, je veux dire revoir les programmes. Vous avez cité un point extrêmement important, un programme pédagogique pour justement que les générations à venir peuvent s'auto-préserver contre une propagande qui vise les intérêts les intérêts nationaux, et ce qu'on appelle le fact-checking. Il y a l'Pendex, le moteur de recherche russe qui garantit aussi des recherches de en termes de vérification d'informations.
D'autant plus que qu'actuellement les guerres deviennent de plus en plus des guerres hybrides, bien qu'il y a risque de retour des guerres à haute intensité. Mais c'est surtout les guerres hybrides, de telle façon que c'est pas uniquement l'armée qui rentre dans la guerre, mais aussi il y a la guerre de l'information, il y a la guerre économique, il y a la guerre financière, et ainsi de suite. Et que la formation, justement, dans ce domaine de l'information, devient de plus en plus indispensable, voire cruciale.
Bien. Exact. Elle est indispensable, je confirme.
Alors, une dernière question. Comment les pays africains pourraient justement se préparer et s'organiser, selon vous, pour déjouer et déconstruire, aussi bien sur le plan individuel que collectif, les campagnes de désinformation les visant, sous peine de rater le nouveau virage historique qu'offre le monde multipolaire naissant dans le sillage de l'opération spéciale russe en Ukraine. Un conflit d'ailleurs qualifié de mondial, alors qu'en réalité, il oppose uniquement la Russie au monde occidental et son bras armé, l'OTAN.
Vous m'avez dit comment l'Afrique, elle peut s'auto-préserver, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, me semble-t-il que j'ai répondu une
partie
à la question. Mais dans toute cette campagne qui vise la Russie, j'ai l'impression que l'orientalisme que Edouard Saïd a évoqué vise aujourd'hui même la Russie dans la façon comment la machine médiatique américaine elle impose une perception complètement biaisée sur la Russie. Alors aujourd'hui, comment peut-on faire face justement à ces stratégies de propagande? Alors la Russie, je sais qu'elle a les moyens pour endiguer la désinformation. Mais me semble-t-il que même les partenaires, ces partenaires africains, doivent contribuer à ces stratégies de détecter la désinformation et de préserver leur propre population. Donc, j'ai dit qu'il faut impérativement imposer des programmes. Maintenant, c'est ce fossé, c'est-à-dire il y a certains qui n'ont pas aussi les moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. La vérification de l'information n'est pas facile. Mais il faut qu'elle soit une culture. Il faut instaurer la culture de la vérification de l'information tout en garantissant le droit à l'information. C'est-à-dire fournir l'information, pas en retard, je veux dire, il faut savoir quand fournir l'information pour ne pas céder justement la place à d'autres sources d'information. Nous avons besoin de renouer avec les pratiques nobles du journalisme, mais à condition que les États aujourd'hui garantissent l'information au moment où il le faut. De deux, il faut aussi armer la population. Ça va prendre du temps, ça peut pas se faire le jour au lendemain, mais il faut armer la population et les générations à venir, avec les outils de fact-checking, de vérification d'informations. Il faut que ça soit une véritable culture. De trois, c'est-à-dire qui synthétise les deux points que j'ai cités, faire appel à la réflexion critique et promouvoir la réflexion critique. Quand vous voyez les programmes scolaires, excusez-moi, il n'y a pas, on ne peut guère parler de réflexion critique ni de fonctionnement critique. fatigue. C'est-à-dire que on n'a pas habitué. Permettez-moi de parler de l'enfant parce que c'est aussi l'éducation média.
Mais absolument.
Voilà, vise l'enfant et on lui offre pas la possibilité justement de questionnement et de promouvoir son esprit critique, alors que tout est basé sur l'esprit critique. Il faut que l'Afrique renoue avec son esprit critique et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. L'Afrique est une cible et je pense avec le contexte actuel, elle le sera davantage et il y aura, je veux dire, un discours médiatique qui visera l'Afrique, qui visera l'intérêt de l'Afrique et il faut agir maintenant pour s'auto-préserver demain. Voilà.
C'était Rima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.